Bonsoir. On va essayer de commencer à l'heure pour garder toujours notre petit timing tout à fait précis que nous aimons tant. Donc cet après-midi, nous vous remercions d'être avec nous parce qu'il fait quand même un temps magnifique. Donc c'est super d'être venu écouter Céline pour cette dernière conférence de la saison. C'est une conférence autour du travail de Philippe Découfflé. Pour certains, je pense que vous avez déjà vu le spectacle Nouvelle pièce courte qu'on a programmé depuis le début de la semaine. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être ce soir, la dernière représentation à 19h30. Donc nous retrouverons certainement Céline la saison prochaine. Nous n'avons pas encore établi le programme. Mais je vous souhaite une bonne conférence et puis un bon spectacle pour ceux qui restent ce soir.
Merci. Bonsoir à tous. Donc c'est la dernière conférence de la saison intitulée Philippe Découfflé, humour et poésie, traversée d'une œuvre aux multiples facettes. En tout cas, l'occasion peut-être pour la diffusion de cette nouvelle création 2017 de revenir sur le parcours de Philippe Découfflé, qui est peut-être un des chorégraphes français les plus connus. Au-delà du champ chorégraphique, au-delà de personnes comme vous habituées du théâtre, je dirais, c'est un nom qui peut être effectivement, qui peut parler, on dirait, au tout public, ou en tout cas, le tout public a une image peut-être de son travail. Il compte une trentaine de pièces au répertoire de sa compagnie, mais sa création va bien au-delà, puisque nous avons aussi des films, des clips, des publicités, des courts-métrages. Alors pour lesquels il est tour à tour réalisateur et ou chorégraphe, hein, selon les cas. Et puis il a aussi participé à des événements de grande ampleur, dont peut-être le plus connu est celui des cérémonies d'ouverture et de clôture des 16e Jeux Olympiques d'hiver d'Aberville. Ça tombe bien, on est en plein Jeux Olympiques en ce moment, qui avait eu lieu en 92. Il est aussi chorégraphe invité, pour participer à des projets d'autres, que ce soit pour le Cirque du Soleil à plusieurs occasions, mais aussi, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, pour le Crazy Horse, pour lequel il a fait un programme de spectacle. Et puis, il dédie depuis quelques années aussi une partie de son temps à la création de comédies musicales, ce qui peut être à noter dans notre chant français, qui ne connaît pas beaucoup de chorégraphes qui vont s'intéresser à ce genre de spectacle. Notamment, il a créé une comédie musicale pour Broadway qui était intitulée Par amour au Lyric Theater, qui a été une comédie musicale plutôt bien accueillie et qui faisait de lui le premier chorégraphe metteur en scène français à pouvoir aborder la 42e rue, je dirais, pour pouvoir y proposer cette comédie musicale. Il réalise aussi, on en verra juste un petit extrait tout à l'heure, des installations de jeux visuels et optiques qui sont issus de ces spectacles. Alors que ce soit, dans des productions de grande envergure ou dans des productions plus intimistes, il n'a de cesse d'imaginer des univers, souvent improbables, développant des espaces poétiques, mêlant le jeu des formes, des couleurs, des personnages venus de mondes oniriques à échelle, je dirais, variable selon les contextes. Alors, je vais peut-être commencer par deux exemples de ces échelles variables. Le premier, c'est un que je viens de citer, une grande échelle, on va dire, ce qu'il a proposé lors des cérémonies au JO d'hiver d'Albertville en 92, où là, il a montrer comment est-ce que un chorégraphe pouvait déployer, je dirais, une écriture à une échelle, je dirais, surdimensionnée par rapport à l'espace scénique.
Thank you.
Alors, vous l'avez vu, hein, force d'invention dans les costumes, dans les machineries, dans le rapport aussi à la musique, et comment finalement chorégraphier pour un espace, comme je le disais, bien plus grand que celui de la scène, et puis pour un public aussi qui est ce public réuni autour d'un événement sportif. Alors, d'un côté, cette grande échelle, et puis de l'autre, peut-être une des plus petites échelles qu'il a pu produire, un solo en 2003, sous le titre très simple de Solo, dansé par lui-même, où il joue de l'image, de la superposition des images à partir d'un principe relativement simple, le corps du danseur, son ombre, le tout éclairé par la diffusion d'un gros plan de sa danse, une manière de voir de trois manières différentes la même danse. Superposition des images, et donc pour nous spectateurs, sans cesse une alternance entre les points de vue qu'on choisit de regarder, soit le danseur lui-même, soit son ombre, soit le gros plan qui est derrière lui. Alors, dès, je dirais, ses premières créations, la danse devient un espace, on va dire, de modulation pour le poétique, mais aussi très souvent pour l'incongru, le drôle, la désinvolture, je dirais, ce qui va devenir rapidement sa signature grâce à un jeu avec l'espace, un jeu avec les rythmes, les cadrages. Et dès les années 80, dès le début de son travail, on s'aperçoit que Philippe Descoufflets finalement semble s'éloigner des recherches contemporaines françaises de l'époque qui étaient rassemblées sous le nom de danse d'auteur. Alors je vous montre un court reportage avec une courte interview de Philippe Descoufflets au moment de Codex en 1986, lorsque cette pièce a été présentée au Festival d'Avignon.
Ne me demandez pas de vous raconter l'histoire de Codex, il n'y en a pas. Ou plutôt si, c'est l'histoire d'une bande de copains bourrés d'idées. Un musicien, un chanteur-comédien et quatre danseurs entraînés par un jeune chorégraphe de 25 ans, Philippe Descoufflets, dans un drôle de ballet où chacun, d'un mètre 51 à 1m95, a pu donner la mesure de son talent.
1, 2, 3, 4.
Je suis venu à Avignon présenter un spectacle qui s'appelle Codex et je suis assez content parce que ça marche plutôt bien.
Ne cherchez pas dans Codex le traditionnel pas de deux. Les puristes de la danse eux-mêmes n'y retrouveraient pas leurs entrechats. Philippe Descoufflets parle des grands thèmes de toujours, l'amour, l'incommunicabilité, mais à sa manière, en cultivant les contrastes, en recherchant le gag visuel. Et pour cela, il a fait appel à un comédien qui n'avait encore jamais dansé. Christophe Salengro, qu'est-ce que vous faites dans cette galère ?
Eh bien, en Avignon, depuis que Francis Huster a joué le Cid, ça a un peu bloqué tous mes rôles. Alors voilà, je me retrouve avec Philippe Descoufflets. Mais c'est pas désagréable. Hein. Vraiment, c'est un spectacle extrêmement sympathique.
Voilà, désolé pour la qualité de l'image, mais c'était quand même un entretien voilà, sympathique, justement, pour nous dire aussi comment est-ce que cette aventure Philippe de Coufflet va rapidement la partager avec une équipe, et ça, on reviendra sur cette notion de collaboration, mais c'est vraiment, voilà, des rencontres aussi autour, voilà, de cet humour grinçant, de ce décalage par rapport à ce que l'on connaît peut-être de plus sérieux dans les arts dits contemporains. Très tôt, Philippe de Coufflet utilise les possibilités de la scène, très souvent associées à celles de l'image, que ce soit l'image fixe ou l'image vidéo, pour créer des spectacles qui offrent une vision du monde, vous l'avez compris, décalée, loin de la réalité, mais pétrie d'une perfection visuelle et plastique. Et ça, ça va être vraiment une signature que vous pourrez retrouver aussi ce soir, hein. Ce goût pour une perfection dans le rendu visuel des images déployées, et puis en gardant aussi ce désir autour du divertissement, de l'amusement. La danse contemporaine de Philippe de Coufflet n'apparaît pas sérieuse, voire pas intellectuelle, ce qu'on peut reprocher à d'autres chorégraphes, mais est le lieu d'une inventivité et d'un amusement qui reste tout de même pétri d'une très grande intelligence de construction. Alors, en quelques mots pour sa biographie, peut-être, après avoir été formé au cirque, et à l'expression corporelle, il a suivi une formation en danse contemporaine au CNDC d'Angers, hein, le Centre National de Danse Contemporaine, et puis il a été un court temps danseur-interprète pour quelques chorégraphes comme Régine Chopineau, comme Carole Armitage, comme Alvin Nicolaïs, qui a dirigé le CNDC à la fin des années 70. Et puis très rapidement, en 1983, entre parenthèses, il est âgé de 22 ans, très jeune, il fonde sa compagnie, la compagnie DCA, qui est aujourd'hui toujours une compagnie indépendante, installée depuis le début des années 90, depuis 1993, à La Chaufferie, à Saint-Denis, qui est une ancienne usine thermique qui a été réhabilitée en espace de création chorégraphique. Alors, si certains artistes et certains chorégraphes restent très secrets quant à leurs références ou à leurs influences, Philippe de Coufflet partage volontiers ce qui l'a marqué, et ce qui marque et influence son travail, que ce soit des films, des comédies musicales, des acteurs, des clowns, des dessins animés, des artistes visuels, la bande dessinée, etc., qui l'ont fasciné dès son enfance et dans lequel il va puiser un certain nombre de références. Alors, j'en ai choisi quelques-unes pour ce soir, il y en aurait bien d'autres certainement, mais pour vous montrer surtout l'hétérogénéité peut-être de ces références. On peut penser d'abord à Groucho Marx et aux Marx Brothers. Il évoque aussi facilement Les Enfants du Paradis, mais aussi Max la Menace, ou encore, pour ceux qui ont un souvenir peut-être lointain de cette émission, les Thunders Birds, ou encore le film Brazil. On peut penser aussi à Dune, et au travail de David Lynch. On peut penser aussi à Alexandre Nevsky, le film de Eisenstein de 1938, mais aussi Le Magicien d'Oz, Les 5000 doigts du Docteur T, Phantom of Paradise, Phantom of Paradise, un dessin animé que vous connaissez, je pense, tous, Tex Avery, ou encore, dans le milieu de la comédie musicale et plus proche du chant de la danse, on peut penser aux Nicholas Brothers, les deux frères claquettistes, notamment très reconnus dans Stormy Weather, ou encore on peut penser à Gene Kelly et Fred Astaire. Donc toute une série de références très hétéroclites, vous l'avez compris, qui vont comme ça nourrir, je dirais, son univers, auquel il mêle aussi un grand intérêt pour le cinéma expérimental, notamment dans l'idée qui vient très rapidement de pouvoir projeter de l'image sur les corps. Une citation un peu longue, mais qui va vous donner une idée de comment est-ce qu'il voit ses influences. Il nous dit « Enfant, je rêvais de devenir dessinateur de BD. Le dessin est souvent au départ de mon processus de création. Je jette des idées croque des images qui me passent par la tête. Ma culture, c'est la BD, la comédie musicale, la danse dans les boîtes de nuit et, trois petits points, Oscar Schlemmler, chorégraphe du Bauhaus. La découverte des photos des personnages de son ballet triadique a été une révélation. J'avais envie depuis longtemps de travailler avec des formes géométriques simples, un cube, un triangle. Cela me plaisait d'observer comment ces lignes, ces volumes se comportaient entre eux. Alvin Nicolaïs m'a enseigné l'importance de la lumière et du costume, l'assurance qu'on pouvait tout mélanger. Techniquement, c'est Merce Cunningham qui m'a le plus formé à la danse. À New York, j'ai suivi les stages de vidéo que lui-même donnait. Passionnant. J'y ai appris à maîtriser les problèmes de distance et de géométrie, les règles élémentaires de l'optique et du mouvement. Tex Avery m'a beaucoup inspiré dans la recherche de gestes a priori impossibles à réaliser. Il me reste toujours quelque chose de ce désir, une bizarrerie dans le mouvement, quelque chose d'extrême et ou de délirant. Je recherche une danse du déséquilibre, toujours à la limite de la chute, avec des modèles comme les Marx Brothers, par exemple, et en particulier Groucho Marx. J'ai cultivé la prise de risque malicieuse, la répétition comique de l'erreur. Alors, je voudrais juste revenir, parce que c'est l'occasion aussi de ces temps passés ensemble, aux trois références chorégraphiques qui sont citées dans cette parole de Philippe de Coufflet, Oscar Schlemmler, Alvin Nicolaïs et Merce Cunningham. Et peut-être partager avec vous quelques mots autour de ces trois chorégraphes emblématiques de l'histoire de la danse pour comprendre comment est-ce que de Coufflet a pu puiser chez ces trois inventeurs. Le premier, Oscar Schlemmler. Oscar Schlemmler expérimente la danse dans le contexte du Bauhaus, qui est une école d'art et d'architecture allemande, très importante dans les années 20. Et cette école a pour ambition, en tout cas les directeurs de cette école, lui donnent l'ambition de réconcilier l'art et la technique. C'est un des fers de lance de Walter Gropius. Et puis, ce Bauhaus est un haut lieu de l'abstraction, notamment avec un peintre, Kandinsky, qui va y enseigner au même moment où il écrit « Points et lignes sur plan » qui va être un de ses écrits importants autour de la peinture et l'abstraction. Il y enseigna d'ailleurs la peinture murale et puis il va partager avec ses étudiants ses recherches sur l'abstraction. Parallèlement à ça, Oscar Schlemmler, lui, est directeur de la scène au Bauhaus. Il a d'autres postes de direction, mais notamment celui-ci. Et il va essayer, avec ses étudiants, d'expérimenter les fondamentaux qui réunissent peinture, architecture et danse. Ces fondamentaux sont l'espace, la forme et la couleur. Chez Oscar Schlemmler, le théâtre devient donc un cosmos au sein duquel le danseur ou la danseuse sont des figures d'art. Des figures d'art, c'est-à-dire des formes abstraites en mouvement, dépersonnalisées par leur costume et par leur masque. Ces figures d'art sont regroupées dans une classification, ce qu'il appelle des types. Ces types sont reliés à des formes de costumes, dont je vais vous montrer les plus importantes dans le bas du PowerPoint. Donc, chaque type de costume permet une gamme de possibilités de mouvements plus ou moins complexes et à partir de ces possibilités de mouvements, il engage des danses de l'abstraction. Son idée, c'est vraiment d'expérimenter l'abstraction en trois dimensions et en mouvement. Comment est-ce que les résonances liées aux théories de Kandinsky, les résonances entre espace, forme et couleur, dans différentes combinaisons, peuvent-elles impacter le spectateur, rejoignant les grandes théories de Kandinsky, notamment une des plus importantes peut-être pour ce qui nous concerne ici, c'est ce travail autour du cercle, du carré et du triangle, auquel Kandinsky avait associé trois couleurs, pour rappel, le bleu, le rouge et le jaune, et auquel il avait associé, on va dire, des résonances ou des notions, l'esprit, la matière et l'énergie. Et c'est donc à partir, je dirais, de ces associations-là, formes, couleurs, émotions, etc., que Oskar Schlemmer va essayer de créer des danses abstraites et en mouvement. Alors, je vais vous en montrer deux. La première, c'est un exercice qui avait eu lieu au Bauhaus, mais qui a pu être dansé lors de représentations. Une série de danses, je vais vous montrer un extrait de la danse de l'espace. Et en parallèle, je vous ai mis juste pour rappel deux tableaux de Kandinsky, parce que je pense que vous allez tout de suite faire le parallèle entre le tableau de Kandinsky et ces danses des formes. Alors juste, je me permets de caler la vidéo, voilà. Alors ces danses ont toujours lieu en musique. Vous retrouvez les trois couleurs primaires de Kandinsky. Le bleu, le rouge et le jaune, associés au noir et au blanc, qui sont deux opposés. Les danseurs sont dépersonnalisés, masqués. Les costumes sont rembourrés pour qu'ils soient identiques. Et ils composent des formes dans l'espace à l'aide, comme la danse l'indique dans son titre, danse des formes, de sphères et de lignes, de bâtons, de différentes échelles. Chaque moment de silence est relié à une pause. Et chaque moment musical permet un déplacement. Laisse finir par la disparition des formes en mouvement et en couleur. Voilà le type de danse que pouvait créer Oskar Schlemmer. Le ballet dont parle Philippe de Coufflet dans sa citation, c'est le ballet triadique. Un ballet qui a connu une existence entre 1916 et 1932, un peu comme un work in progress, et qui est peut-être la forme la plus aboutie du travail chorégraphique d'Oskar Schlemmer. Son idée était d'exposer dans ce ballet les multiples triples accords que Oskar Schlemmer utilisait comme, on va dire, moteur de sa création. Tout était de l'ordre de la Trinité chez Oskar Schlemmer. Dans son journal, d'ailleurs, on peut lire des sortes de trios. Voici ce qu'il dit au niveau du ballet triadique. La forme, la couleur, l'espace. Les trois dimensions de l'espace, la hauteur, la profondeur, la largeur. Les formes fondamentales, la sphère, le cube, la pyramide. Les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, la trinité de la danse, du costume et de la musique, etc. Donc on est bien sur voilà des fondements, fondamentaux, des notions fondamentales qui permettent de répondre à cette juxtaposition entre architecture, peinture et danse, l'espace, la forme et la couleur. Voici un extrait de ce ballet triadique. Je vous en montre un très court extrait, mais pour vous montrer comment est-ce que il y a un grand travail sur les formes géométriques, mais aussi sur les costumes, sur les volumes et sur les rapports entre mouvement et espace. Ça peut aussi peut-être vous rappeler certains costumes que l'on a vus pour la cérémonie des JO d'Albertville, des choses qui peuvent être comparables. Donc là, on est plutôt sur une figure articulée que cette figure qui pourrait nous faire penser à une ballerine. La deuxième figure de ce tableau est une figure beaucoup moins articulée, vous allez le voir. Qui paraît aussi peut-être plus énigmatique. Beaucoup plus monolithique. Cette figure, évidemment, par son organisation même et par le costume qui est proposé, invite certainement plus facilement à rire, ou en tout cas nous paraît beaucoup plus drôle que la figure de la ballerine qui paraît peut-être plus marionnettique. Voilà, je l'arrête là. Voilà, c'est plusieurs séquences qui utilisent comme ça différemment l'espace, le type de costume et le type de modulation dans cet espace. Première influence, c'est Oscar Schlemmer dans les années 20 au Bauhaus. Deuxième influence ou référence nommée que Philippe de Coufflet a connue lui-même en tant qu'élève puis en tant que danseur, Alvin Nicolais, et l'abstraction dans son travail. Alvin Nicolais est un chorégraphe américain qui va développer dès les années 50, 1950, sa vision de l'abstraction chorégraphique dans un théâtre total où danse, musique, costume, décor, lumière forment un tout non hiérarchisé dans lequel tous les éléments donc ont la même importance. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il conceptualise et signe souvent la totalité de son œuvre. Il est aussi bien le musicien que le créateur de costumes, que le chorégraphe, que le signataire des Lumières, par exemple. Alors, son parcours lui-même, les différentes activités qu'il a pu avoir avant d'être chorégraphe et s'intéresser à danse, il était accompagnateur au piano de films muets et de classes de danse, il a été directeur d'un théâtre de marionnettes, sont certainement pour quelque chose dans cette idée d'une œuvre totale. Dans son travail, il opte vraiment pour une importance pour la forme. Nicolais est intimement persuadé que c'est la forme qui permet de recevoir le message. Au point, je dirais que très souvent, la forme va aller jusqu'à supplanter le message lui-même. Il est fidèle en tant qu'Américain à une théorie développée par un sociologue qui s'appelle Marshall McLuhan, qui a développé toute une idée autour de laquelle le média est plus important que le message. La forme que prend le message a plus d'importance que finalement le message que l'on souhaite passer. Pour cela, il va aller jusqu'à dire à ses danseurs « motion, not emotion ». Motivez votre mouvement, mais pas d'émotion. Ce qui est important, c'est la motivation du mouvement dans une forme finalement très abstraite. On ne cherche pas à être dans l'expression du mouvement, mais bien dans sa motivation. Alors, je vous ai mis sur la gauche quelques images de certains de ces spectacles. Vous voyez là encore une prédominance, un intérêt particulier pour le costume, avec des costumes qui peuvent être en extension dans l'espace. Un intérêt aussi pour le travail, pour la lumière et la projection de couleurs ou d'images sur les corps. Et puis, je vous montre un court extrait d'une pièce de 53, donc assez ancienne, un solo, Noumenon, le danseur est complètement intégré dans un tissu élastique. Il va se mouvoir pour devenir quasiment une sculpture abstraite en mouvement. La construction du corps à l'intérieur du tissu, mais parfois où on en perd, je dirais, l'organisation corporelle du danseur au profit de la forme qui est créée. Cette forme étant en interaction avec le son qui est entendu. Là encore, hein, y a vraiment cette idée que l'émotion, elle va survenir de l'association des formes, du mouvement, du son, et que tout à chacun dans la salle, voilà, va ressentir, je dirais, peut-être, ou va penser à certaines choses en fonction de la forme qu'il a devant lui, mais la lecture n'est pas unique. Dernier chorégraphe évoqué dans cette citation, Merce Cunningham. Deuxième grande figure de l'abstraction américaine de la moitié du XXe siècle. Alors, Merce Cunningham est connu pour son utilisation de l'aléatoire hein, comme principe créateur, utiliser le tirage au sort pour créer ses chorégraphies. Il est connu aussi pour ses collaborations avant-gardistes, notamment avec John Cage, le musicien, ou encore avec le plasticien Robert Rauschenberg, avec l'idée qui va... sous-tendre leur collaboration, hein, cette idée d'autonomie de création pour chacun, et puis dans une pensée très orientale, une pensée très zen de la cohabitation, de la non-interférence des choses entre elles, donc une autonomie de création pour chacun, et puis la juxtaposition des éléments dans un même espace-temps, une fois que ceux-ci sont créés. Merce Cunningham est aussi connu sous cette définition, enfin on connaît son travail sur cette définition des 3C. 3C pour chance, l'aléatoire, caméra, j'ai pas besoin de le traduire, computer pour l'ordinateur. Cette utilisation ainsi de l'aléatoire, de la vidéo et de l'ordinateur, notamment l'ordinateur dans les années 90, je vous en ai mis une image pour créer ce Lifeforms programme, un programme de tirage au sort du mouvement qui va l'aider à créer certaines œuvres à partir des années 90, dont l'œuvre Beach Birds. Cette œuvre Beach Birds, les oiseaux de la plage, va aussi avoir une version filmée qui s'appelle Beach Birds for Camera, qui est issu d'une collaboration avec un réalisateur, Elliot Kaplan, qui va être un des grands collaborateurs de Merce Cunningham, tout comme Charles Atlas, qui vont être tous les deux vraiment les collaborateurs proches de Cunningham au niveau du travail vidéo. Ce travail vidéo, ce n'est pas que de la captation de spectacle, c'est aussi donc de la vidéo danse. Et je vous montrerai juste un extrait d'une pièce vidéo qui a été réalisée par Charles Atlas en 72, Walk Around Time. Donc là, c'est une vidéo danse, hein, vraiment un travail qui a été fait pour la caméra. À plusieurs caméras, avec cette idée que l'on peut voir la danse quasiment d'un point de vue de spectateur, mais aussi être au centre de la danse, et que finalement la danse peut tourner autour de nous, voir qu'on peut segmenter ce que l'on regarde de la danse par le cadrage choisi. Donc vous l'avez compris, cet espace de la vidéo, Cunningham va très vite s'apercevoir que c'est un formidable espace pour repenser une fois de plus l'espace de la danse. Et que la danse peut être vraiment vue différemment par cet outil qu'est le film et le travail vidéo. Ces influences, vous l'avez compris, ont en commun l'abstraction. L'abstraction dans la construction de l'espace, des rythmes, des formes, des couleurs. Et cette abstraction, c'est ce qui va vraiment attirer Philippe de Coufflet vers ses chorégraphes. Mais à la différence, je dirais peut-être, c'est que chez Philippe de Coufflet, il y a une cohabitation de ce goût pour l'abstraction avec un autre désir qui est celui de la construction de personnages, d'espaces fictionnels, d'espaces poétiques, voire de micro-narration. Donc voilà, il y a une union entre abstraction et création d'espaces imaginaires qui, eux, peuvent raconter quelque chose, ce qui n'est pas le cas de l'abstraction pure. Donc, on a aussi une union des mouvements dansés associés aux possibilités spatiales issues notamment du cirque, issues de la formation de Philippe de Coufflet, et puis aux capacités d'incarnation ou d'expression corporelle venant là aussi de sa formation. Donc il y a un mélange, une hybridation entre ce goût pour l'abstraction mêlé à d'autres intérêts et à d'autres inventivités pour la notion de personnage et puis pour l'endroit de fiction. Et c'est ainsi qu'il va développer un travail sur l'humour, le second degré, la poésie, et donc l'utilisation du corps, évidemment, mais aussi avec l'utilisation de la voix, des jeux d'ombre, des jeux entre images réelles, images virtuelles, etc. Alors, je vais vous proposer peut-être, dans cette deuxième partie, de faire un retour sur quelques pièces emblématiques de Philippe de Coufflet. Mais avant, parce que j'essaye aussi que mon propre propos soit à l'endroit peut-être de la création du chorégraphe dont je parle, je vais vous proposer avant une petite pause de publicité. Peut-être que pour les plus jeunes dans la salle, ça ne vous dit rien. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ça vous dit forcément quelque chose. Ce sont les habillages des spots publicitaires pour France 2 en 1999. Et c'est aussi voilà, une partie du travail de Philippe de Coufflet que je veux évoquer par ces habillages-là. C'est qu'il a aussi participé à un certain nombre comme ça d'éléments tout public lié à la publicité, je pense à la publicité de Polaroid, pour certains, peut-être vous vous en souvenez, ou encore à celle pour France Télécom au moment où les régions ont ajouté ce 01, 02, 03, 04 devant les numéros de téléphone. Donc voilà, tout un univers aussi sous le mode ludique qui a investi l'espace télévisuel, ce que la danse contemporaine ne faisait que peu jusqu'alors, si ce n'est peut-être de manière un peu caricaturale sur Arte très tard le soir. Il y avait peu d'inscriptions comme ça dans la danse contemporaine dans le paysage, je dirais, télévisuel des années 80 ou 90. Philippe de Coufflet en fait partie. Alors pour revenir à des choses peut-être plus sérieuses, quelques éléments et retours sur les pièces emblématiques de son travail. Tout d'abord, une thématique peut-être. Hein. Chez Philippe de Coufflet, on a, je dirais, un bestiaire assez complet, avec des mammifères et des bêtes de toutes sortes, à deux pattes ou à quatre pattes, allant même jusqu'aux microbes, hein, cette danse des microbes avec ses longues protubérances. Mais parmi tout ce bestiaire, peut-être que les animaux les plus incontournables qui ont été présents dans plusieurs pièces et qui font, qui ont été l'objet de plusieurs versions, ce sont ces palmipèdes. Mi-oiseaux, mi-hommes palmés, que l'on retrouve notamment dans, dans Codex. Codex créé en 86. Dont Philippe de Coufflet dit avoir tiré une inspiration profonde de l'encyclopédie dessinée par Luigi Serafini dans les années 70, qui a beaucoup nourri son imaginaire. Et certainement que ces êtres hybrides aux pieds palmés font partie des plus connus du chorégraphe. Alors, un bestiaire, et puis déjà, on le voit, un jeu sur notre perception, sur les points de vue, sur le devant, le derrière, le haut et le bas. Et puis, tout un jeu, je dirais, de miroir, de cadre, de prise vidéo en direct qui multiplie les points de vue ou, au contraire, qui propose des situations qui segmentent le corps. Et peut-être qu'une des pièces les plus emblématiques de ça, c'est Shazam. Qui joue sans cesse, je dirais, de jeux de magicien, d'abracadabra visuel et perceptif, ici dans cette séquence avec des miroirs. Là, avec une multiplication de points de vue, grâce à l'objet vidéo. Ces questions du cadre, du décadrage qui est omniprésent de plein de manières dans quasiment toutes les pièces. Nous rappelons que finalement la danse c'est avant tout peut-être choisir un point de vue sur le mouvement que l'on regarde. Je l'arrête là, mais voilà, tout un jeu sur cette question du cadre et des effets de miroir ou des effets d'image. Par rapport à ce travail sur la perception, vous l'avez compris, il y a évidemment des choses très simples qui sont mises en œuvre, mais c'est aussi ce travail sur la perception, un fruit de recherche d'invention technique ou de, je dirais, transposition d'autres techniques pour intégrer, l'espace scénique et servir de principe d'illusion. C'est quelque chose qui, depuis quelques années, va apparaître dans des installations que Philippe de Coufflet va mettre à disposition du public dans ce qu'il va appeler les opticons, qui sont des installations visuelles qui peuvent être manipulées par le public, qui ont été créées à partir de la grande exposition qui avait été faite autour de son travail à la Halle de la Villette en 2012, et donc où il propose finalement au tout public d'expérimenter des installations techniques qui ont servi dans certains de ses spectacles, comme par exemple ce qu'il appelle le plasma japonais, qui a servi notamment Sombrero, une pièce de 2006 qui jouait sur l'articulation, la désarticulation du corps. Alors je vous en montre un extrait parce que le plasma japonais ne doit pas vous dire grand-chose comme ça a priori. Mais voici le principe.
Cette illusion optique, découverte et utilisée dans le spectacle Sombrero en 2006, sera mise à disposition des visiteurs, enfants comme adultes, lors de l'exposition. Le public pourra non seulement jouer avec cette machine, mais aussi contempler le jeu des autres grâce à un miroir sans teint. Et pour perfectionner cet objet magique, c'est une danseuse de la compagnie qui sert de cobaye.
Il joue avec les bras au-dessus, comme t'es petite. Il faut qu'on... Voilà, tu en as un devant, un dessus, un dessous. Voilà. Ce qu'on appelle le plasma japonais, parce que c'est un truc qu'on a trouvé au Japon. C'était parti du principe, vous savez, cette image des Dupont dans Objectif Lune, il me semble, où il passe derrière un truc qui fait qu'on voit les squelettes. Au départ, évidemment, c'était essayer de passer à travers, mais on l'a pas trouvé. Mais par contre, ce qu'on a trouvé, c'est de renvoyer le dos. Et donc, ça nous permet d'être à la fois de face, de dos et de face.
Voilà, vous avez compris le principe. Donc, aussi l'utilisation comme ça de techniques très précises pour pouvoir vraiment appuyer sur cette question... qui est une, la machinerie scénique, hein, quelque chose qui fait partie de l'histoire de la scène. L'espace vidéo aussi, chez Philippe Découfflet, on l'a dit, hein, est un endroit particulier, et très tôt, notamment avec ce film Caramba, dès 86, il va prendre du temps à travailler l'objet vidéo, la vidéodance, qui dans Caramba devient, je dirais, une fiction, un travail sur la fiction autour de la danse. Comment est-ce que la danse peut être l'objet d'une fiction filmique ? L'histoire d'un reporter qui viendrait voir les numéros d'une compagnie, d'une troupe hétérogène dans un vieux bâtiment désaffecté. Alors, vous l'avez compris, un grand travail sur les costumes, les actions, mais aussi sur le cadrage, sur le rapport à la musique. Un vrai travail de réalisation filmique de la danse. Je l'arrête là. Ça fait une bonne fin pour cet extrait. Donc, vraiment des vidéodances qui sont des fictions chorégraphiques, et puis d'autres formats beaucoup plus courts qui peuvent revêtir quasiment le format du clip musical. Et je pense peut-être à une des vidéos, là encore, les plus connues de Philippe de Coufflet, qui est Le Petit Bal, réalisé en 94 sous la forme d'un clip musical.
C'était tout juste après la guerre.
Une interprétation gestuelle de la chanson de C'était misère, bien.
Il y en avait deux à découvert.
Interprété par Bourville.
Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
C'est peut-être un des films les plus primés de Philippe de Coufflet.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes.
Vous avez compris, hein, une gestuelle qui fait écho aux paroles.
Je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Qui parfois, je dirais,
ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux,
jeux de mots
des yeux.
Avec la phonétique des paroles, ou des jeux de gestes avec la phonétique des paroles.
Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
Voilà, alors là on est vraiment sur un objet intéressant qui reprend un format que l'on connaît bien, je dirais, dans le monde de télévisuel, qui est le format du clip musical, et qui en même temps, vous l'avez vu, s'appuie sur une chanson populaire et qui permet aussi à la danse contemporaine, comme ça, de se rapprocher d'une culture très populaire, tout en étant une danse qui s'écrit et qui va chercher à inventer du mouvement. Philippe de Coufflet sera d'ailleurs invité parfois à chorégraphier des clips pour des groupes de musique. Si nous avons le temps, on en reparlera, mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'il va pouvoir produire grâce à des invitations. On a donc vraiment cette idée avec Philippe de Coufflet que la danse contemporaine est une culture qui peut appartenir à tous, qui passe par le jeu, le goût pour mélanger le populaire et le savant, qui crée des mondes, je dirais, improbables, dont Philippe de Coufflet est certainement le chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre, je dirais, d'un collectif collaboratif. Hein. Son idée, c'est vraiment de s'entourer de collaborateurs qui lui permettent de développer, de nourrir, je dirais, les créations dans des laboratoires d'idées et de techniques. Alors à la fois un travail collectif avec les danseurs interprètes, mais aussi avec tous les corps de métier du spectacle vivant, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire les éclairagistes, les créateurs sonores, les techniciens plateaux, les techniciens vidéo, les scénographes, les constructeurs, les costumiers. Et cela, je dirais, dès ses premières pièces, il y a vraiment le besoin et le désir de rassembler une communauté hétérogène qui partage son goût peut-être pour l'extravagant. Dernière pièce dont je citerai peut-être un extrait ce soir et qui va me permettre d'aller doucement, puisqu'il nous reste peu de temps, vers ce que l'on va découvrir ce soir. Qui va nous permettre aussi d'entendre Philippe de Coufflet parler de son travail avec les danseurs. C'est la pièce Panorama qui a été créée en 2012, qui était une pièce rétrospective d'un grand nombre de ses œuvres de répertoire précédentes. Et vous allez le voir que nous avons retrouvé un peu le même format ce soir et qui est un format qui a été récurrent chez Philippe de Coufflet, cette idée d'avoir une pièce qui est composée de divers segments, de différentes pièces les unes à la suite des autres, ne cherchant pas à faire une dramaturgie linéaire qui ferait un tout. Mais avant, je le laisse peut-être parler de son travail avec les danseurs.
J'ai vu à quel point ma manière de travailler avait changé avec les années. Puisqu'au départ, j'écrivais tout. j'expliquais à chaque danseur ce qu'il devait faire et j'écrivais tout avec mon corps et je montrais tout précisément. Et que maintenant, c'est plus le cas. Je travaille vraiment à partir du corps des danseurs et de ce que eux ont en eux. Donc il y a vraiment eu un changement. Maintenant, je suis plus une espèce de maître de dramaturgie, de bonne ambiance, de lumière, d'équilibre avec la musique. Je contrôle plus, c'est un truc global qu'une écriture chorégraphique.
Voilà, alors ce soir, pour ces nouvelles pièces courtes, la création 2017 de Philippe de Coufflet, il va y avoir cette même idée de puzzle composé de divers univers et matériaux chorégraphiques. À ce sujet, d'ailleurs, il dit, au moment où il a créé nouvelles pièces courtes, beaucoup de spectacles de danse moderne sont construits de la sorte. De George Balanchine à Merce Cunningham, en passant par Martha Graham et Alvin Nicolaïs, les chorégraphes américains qui m'ont influencé présentent presque toujours des spectacles modulables composés de pièces courtes. Et peut-être l'attachement au format court me vient du rock'n'roll. Des morceaux brefs et efficaces, gagnant en puissance ce qu'ils perdent en longueur. Ce format court correspond bien à la danse, où l'écriture est souvent plus poétique que narrative, et permet aussi dans un même programme de traverser des univers différents et d'avoir le plaisir de s'y perdre. Alors c'est l'occasion pour moi, cette dernière citation, d'en prendre un petit morceau, cet attachement au format court qui viendrait du rock'n'roll pour Philippe de Coufflet, pour quand même, je voulais absolument mettre cette vidéo, vous présenter un court extrait. On regardera pas l'intégralité de ce clip, mais le clip que Philippe de Coufflet, auquel il a participé pour un groupe de rock qui s'appelle New Order et pour un morceau qui s'appelle True Face qui avait été réalisé il y a quelques années déjà et qui va permettre effectivement peut-être de clôturer notre temps ensemble en musique. Un clip de 1987. Je profite du break pour arrêter. Mais voilà, juste, c'était un clin d'œil, voilà, pour se rappeler que tout peut être source, effectivement, de décalé ou d'amusement, et c'est véritablement à cet endroit-là, je crois que Philippe de Coufflet veut nous partager son goût pour la danse et, je dirais plus largement, pour les arts vivants. Donc voilà, il est juste l'heure comme il faut. Je vous remercie beaucoup. Bon spectacle, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.